Et je voudrais commencer par une prière. Je vous invite à la prière. Seigneur, réveille ta puissance et viens parmi nous dans ta gloire. Et puisque le fardeau de nos péchés nous entrave, envoie ta grâce et de ta miséricorde bienfaisante, viens nous aider et nous délivrer rapidement par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui reviennent l'honneur et la gloire avec toi et le Saint-Esprit pour le siècle des siècles. Amen. J'ai trouvé cette prière dans le petit livre, le livre de Tish Harrison Warren. C'est une femme, une pasteure anglicane, américaine, mais qui a son ministère au Canada et qui connaît les mêmes pasteurs que je connais. Et vivre le temps de l'Avent dans les magnifiques éditions Excelsis que je vous recommande d'aller sur le 6 Excelsis pour trouver de bons livres chrétiens. Et Madame Harrison met l'accent sur le fait que, oui, l'Avent est un temps d'attente, un temps d'espérance, mais aussi c'est un temps de prise de conscience de notre besoin de délivrance. Prise de conscience, comme le dit la prière, donc cette prière pour le quatrième dimanche de l'Avent, qui vient du Common Book of Prayers de l'Église anglicane, nous parle de ce « puisque le fardeau du péché nous entrave ». Viens nous délivrer, rapidement même, dans le texte. Prise de conscience de l'urgence de la délivrance. Comme disait un pasteur qui était à Pau avant moi, et puis après à Poitiers, on n'est pas dans un monde de bisounours, les amis. On a besoin d'une délivrance, du Rédempteur. Quatrième dimanche de l'Avent, avec le verbe que l'on a pris aussi de Madame Harrison, ces quatre verbes, c'est aussi un dimanche où on parle traditionnellement de l'annonciation faite à Marie. L'annonce faite à Marie. Et nous allons lire ce récit magnifique de cette visite de l'ange à cette très jeune fille. Une visite comme il a fait Gabriel, l'ange Gabriel, hein, comme la semaine dernière, comme il a fait pour Zacharie, le mari d'Élisabeth. Dans le temple, l'ange lui rend visite et lui annonce qu'il aura un enfant, Jean-Baptiste, et lui annonce plus que cela encore. Que Jean-Baptiste préparera le chemin au Rédempteur. Et c'est, on en avait parlé il y a 15 jours ou 3 semaines, c'est le kairos, l'occasion de Dieu, le temps de rencontre de Zacharie avec Dieu, un temps particulier dans le chronos, le défilement du temps, c'est le kairos, l'occasion, la rencontre, le temps fort. Et Dieu va avoir ce temps fort aussi avec Marie, un kairos pour Marie. Alors, c'est amusant, quand je tape kairos dans mon texte, il y a le correcteur, l'autocorrecteur, qui me met toujours kern à la place. Kairos. Non, ça veut pas. Kern. Mais, oh, pourquoi pas? Kairos, kern, qui montre la route, qui te permet de suivre une direction, parfois qui fait, tu t'es en train de te perdre, et puis le cairn, ah non, c'est par là. Kairos, cairn, pour Marie. Alors, nous ne sommes plus à Jérusalem, près du temple, avec Zacharie, mais on est en Galilée, dans le nord, une petite bourgade inconnue, qui s'appelle Nazareth, et on est dans un appartement, l'appartement d'une jeune fille qui s'appelle Marie, comme des milliers d'autres. Myriam à l'époque, et on est loin donc du temple et du monde des sacrificateurs, on est dans la chambre d'une jeune femme moderne, on va dire antique mais moderne, du premier siècle, et nous lisons ensemble. 6 mois plus tard, donc 6 mois après la visite de l'ange Gabriel à Zacharie, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. » Deux fois. « Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Ça fait deux fois aussi qu'on parle de David. Jésus sera le fils de David. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Éternel, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, c'est la femme de Zacharie, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Fais selon ta parole. » Et donc, Madame Harrison nous met le mot « réveillé » pour cette annonce faite à Marie. Le Seigneur a réveillé sa puissance à Noël pour l'incarnation. Mais il le fait en empruntant le corps et le ventre et la vie d'une jeune fille tout à fait fragile et vulnérable. Voilà ce qu'elle dit, Madame Harrison. Marie, cette humble jeune fille, à peine sortie de l'adolescence, probablement analphabète ou illettrée, sans richesse ni statut social et vivant dans un village perdu au milieu de nulle part, illustre de façon incomparable ce qu'est la fidélité chrétienne. Et on va voir dans quelle mesure Marie illustre cette fidélité chrétienne. Et ce qui est frappant dans le récit de l'Annonciation, outre sa beauté, c'est son côté scandaleux. Tout commence par un scandale. Il y a une jeune fille qui n'est pas mariée, qui tombe enceinte. Ça se fait pas. Surtout à l'époque. Aujourd'hui encore, dans certains milieux. Parce que depuis des siècles, on a tendance à aseptiser le récit de Noël, à sacraliser, on met des auréoles partout, des visages doux et souriants. Il l'était peut-être, mais il faut bien se rendre compte que tout commence par un scandale. Une jeune fille tombe enceinte et elle n'est pas mariée, ou plus exactement, elle n'est pas encore mariée, elle est fiancée. Mais à l'époque, les fiançailles, c'est déjà un engagement ferme et il faut une lettre de divorce pour rompre les fiançailles. Donc, elle a tout faux, et vous imaginez le scandale pour Marie, pour sa famille, la réputation de Marie et de ses proches qui est mise en jeu, la réputation, les ragots, les soupçons, les sourires en coin, les ricanements au village perdu, là, de Nazareth. Où t'as vu, c'est elle qui... Mais Marie, elle est prête à tout risquer, à prendre des risques. Même risquer sa réputation pour se mettre au service de Dieu, la petite Marie est prête à vivre ce scandale, à voir sa réputation partir en fumée, à entendre des réflexions derrière son dos, à voir des sourires entendus. Elle est prête à être l'objet d'un scandale. On a parlé aussi dans notre série sur 1 Corinthiens du scandale de la croix. Parce que pour elle, il y a des choses plus importantes que sa réputation. Et cette chose au-dessus des autres pour laquelle elle est prête à risquer sa réputation de fille sage, c'est se mettre au service du royaume de Dieu. Quelque part, Marie est une révolutionnaire, une aventurière. Elle est prête à marcher un peu à contre-courant, à se moquer du qu'en dira-t-on, et tout ça pour Dieu. Et cette jeune fille, Marie, cette adolescente, est une femme fantastique, prête à tout, pour Dieu, prête à perdre sa réputation, pour que Dieu soit glorifié dans sa vie. C'est une risque tout que cette Marie. Et on se demande d'ailleurs si c'est pas pour cela que Dieu l'a choisie entre toutes pour porter Jésus. Elle n'était manifestement pas plus sainte qu'une autre, pas moins non plus. Mais la sainteté n'a jamais été un critère de choix pour Dieu. C'est la disponibilité qui est un critère de choix pour Dieu. C'est la disponibilité de Marie à vivre quelque chose d'étrange et de dangereux pour elle et pour son confort personnel. Oui, Dieu pourrait l'avoir choisie pour cela, car Dieu utilise toujours ceux qui sont prêts, ceux et celles qui sont prêts, prêtes à partir à l'aventure avec lui et pour lui. Il y a un historien du christianisme qui disait cette belle phrase. À ce moment-là, Marie est le modèle de la façon de vivre à laquelle tout croyant aspire. Dire oui au plan de Dieu. Une risque tout, cette Marie, mais avec quand même les pieds sur terre, malgré son jeune âge, parce qu'elle va dire, oui, moi je veux bien, mais comment cela va-t-il se faire? Puisque je suis vierge. Et on comprend que Marie a saisi la complexité de l'histoire, et le fait aussi que sa réputation est en jeu, mais il n'y a pas vraiment de doute, comme vous savez, Zacharie a posé un doute quand il a reçu la promesse. Il dit, ben, je suis vieux, ma femme est vieille aussi, pas très délicat de sa part. Mais là, on a l'impression qu'avec Marie, elle pose juste la question du comment. Comment ça va se passer? Et l'ange va lui répondre en utilisant un langage poétique. Il te couvrira de son ombre, un petit peu comme la nuée dans l'Ancien Testament rentrait dans le sanctuaire, la Shekinah, la gloire de Dieu qui rentre dans le sanctuaire. Alors, couvrira de son ombre, on n'est pas plus avancé du point de vue obstétrique, ça nous avance. Mais cet enfant vient de Dieu lui-même. Et l'ange continue en précisant le nom et surtout sa grandeur de cet enfant qui va naître. Il utilise d'ailleurs un futur simple. Il sera. Il y a de la puissance dans ce sera. Il sera grand. Il y a de la puissance dans ce futur simple. C'est pas il pourra être. S'il est obéissant, il deviendra. Il sera. Ce n'est pas si tout se passe bien, s'il grandit bien, s'il passe son baptême et sa confirmation et son caté, non. Jésus n'est pas adopté comme fils de Dieu par obéissance, c'est important ça, c'est pas l'adoptionnisme, mais il sera grand et saint pour sauver le monde. Et Marie prend tout cela et dit oui sans hésitation, elle ne demande pas de signe comme Zacharie, mais elle en reçoit un quand même. Et ce signe c'est, écoute, ta parente, Élisabeth, elle est enceinte aussi, même si tout le monde disait que c'était trop tard pour elle, que c'était pas possible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et voilà, et Marie aura certainement besoin de ce signe pour alimenter sa foi tout au long de sa grossesse et encore après, mais pour l'instant, elle est prête à risquer sa réputation de jeune femme juive, de bonne famille, pour répondre à l'appel de Dieu. Et ceci est pour nous un magnifique exemple, pour nous qui avons peut-être tendance à rester dans le socialement correct, dans le religieusement correct, dans tout ce que vous voulez, mais tant que ça reste correct, et c'est souvent, vous savez, être correct, c'est souvent synonyme de tranquillité, de confort. Et je me dis qu'en cette période de Noël, où tout sera comme d'habitude, très correctement, nous avons besoin de retrouver ce parfum de scandale qui émane du premier Noël et de cette jeune fille. Et en ce Noël 2024, et je parle pour moi aussi, nous devrions peut-être être prêts à vivre un certain scandale en tant que chrétiens pour pouvoir glorifier Dieu d'une certaine manière dans notre vie. Parce que même si nous ne nous appelons pas Marie, Dieu nous a choisis également en Jésus-Christ et nous a appelés par notre nom pour que nous puissions porter du fruit. Deuxième aspect de cette magnifique Marie, qui est-elle? Elle est une femme prête à prendre des risques, mais elle est aussi une femme prête à recevoir la grâce. Elle a une relation particulière avec la grâce. Tout à l'heure dans le texte, c'était la faveur. Mais c'est le mot charis en grec, la grâce, deux fois la grâce. Elle a une relation particulière avec la grâce. Quand l'ange lui dit « Je te salue, Marie, à qui une grâce a été faite, à qui Dieu a accordé sa grâce. » J'ouvre une parenthèse, il n'est pas dit « pleine de grâce ». Le texte grec ne dit pas ce mot-là, qui laisserait à penser que comme elle est débordante de grâce, elle peut en transférer aux autres. Non, l'idée est sur la réception de cette grâce de la part de Marie. Une grâce a été faite et tu la reçois. Même la Bible de Jérusalem nous parle de combler de grâce. Elle a reçu la grâce. Elle reçoit une grâce, c'est-à-dire la faveur de Dieu, un regard favorable qui est posé sur elle. Alors comment va-t-elle réagir? Comment va-t-elle recevoir cette grâce? Avec cette réponse devenue célèbre et populaire en raison d'un vendeur de savon pour cheveux qui s'est parlé aux femmes, et est-ce que Marie va répondre « Oui, normal, parce que je le vaux bien ». Et pas du tout, Marie était à des années-lumière de cela. Elle reçoit cette grâce avec énormément d'humilité. D'ailleurs, selon les traductions, on parlera de trouble, de surprise et même de bouleversement intérieur. Elle est remuée, Marie, humblement remuée. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'elle ne mérite pas cette faveur. Parce que Marie ne voit rien dans sa vie qui mériterait une telle salutation d'un ange. Elle ne voit rien en elle qui puisse attirer la faveur ou la grâce de Dieu, et c'est pour ça qu'elle est troublée. Mais je ne mérite pas tout cela. Et vous savez, quand quelque chose de désagréable nous arrive, nous nous posons tous la même question. Mais est-ce que je mérite ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Quand il y a des tuiles en série. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et parfois, on ajoute, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Comme le titre d'un bon film bien français. Mais par contre, quand il y a quelque chose de bon, d'inattendu, de joyeux, de bienheureux qui nous arrive, on ne se pose jamais la question de savoir « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Non, on le prend pour acquis. On le prend parce que on le vaut bien. Mais elle, Marie, elle reçoit une grâce et se demande si elle la mérite. En fait, elle considère cette grâce comme ce qu'elle est véritablement, littéralement, un cadeau immérité. C'est ça, la grâce. Et plus loin, dans son fameux cantique, lorsqu'elle va rendre visite à sa parente Élisabeth, qu'on appelle le Magnificat, voici ce qu'elle va dire. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et il a fait pour moi de grandes choses. » Et vous aurez noté aussi que Marie parle de son Sauveur dans son cantique. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Et qui a besoin d'un Sauveur ? Celui ou celle qui a besoin d'être sauvé. Marie a conscience, non pas seulement qu'elle ne mérite rien, mais elle a conscience de tout ce dont elle a besoin, et ce dont elle a besoin, c'est d'être sauvée, d'un sauveur, parce que Marie a, semble-t-il, conscience de son insuffisance, de son indignité, de sa bassesse, elle le dit, de ses limites, de son incapacité à faire le bien qu'elle voudrait peut-être faire, mais qu'elle n'arrive pas à faire complètement. Marie a besoin de quelqu'un qui viendrait prendre sur lui tout ce qui la sépare du Dieu trois fois saint. Alors j'ai entendu beaucoup de choses assez dans cette période de Noël, mais très peu sur ce qui est annoncé vraiment à Noël. Pourtant, Ésaïe le dit, le cantique de Zacharie le dit, l'ange au berger le dit, Siméon, quelques jours après la naissance de Jésus, le dit quand il tient Jésus dans ses bras, il dit « Mes yeux ont vu le Sauveur ». Pas un petit bébé qui gémit dans les bras, je ne me souviens plus du verbe, mais il y a un verbe pour ça. Siméon, il voit le Sauveur dans ce bébé. Et le message de Noël, c'est celui de la venue du Sauveur, celui qui amène le pardon pour tout ce qui nous tire vers le bas, pour tout ce que nous aurions voulu faire mais qu'on n'a pas fait, pour tout ce que nous avons fait et que nous n'aurions pas dû faire. Il nous amène la paix, la délivrance de nos addictions, de nos idoles, comme dit ce théologien que j'aime beaucoup, Timothée Keller, ces idoles de néant qui nous amènent dans un esclavage de la pensée, parfois physique aussi, qui nous délivre de la honte et de la culpabilité quand on a commis des choses graves. Il est le Sauveur, il est le Rédempteur. Il est venu pour nous sauver et il le fera à la croix, là où il prend sur lui tout le mal, tout le péché qui nous colle à la peau, qui nous enveloppe si étroitement. Il est mort à la croix en donnant sa vie pour nous à notre place, pour nous sauver de la condamnation que nous méritions pour le coup. Sauver. Le Rédempteur. Et le texte de Minuit chrétien, j'ai appris la semaine dernière par Diego que c'était quelqu'un de non-croyant qui l'avait écrit. Incroyable. Il parlait du Rédempteur pour arrêter le courroux, la colère de Dieu. La colère de Dieu pas contre les hommes, contre le mal. Le Rédempteur. Il est vivant, quel magnifique texte. C'est le message de Noël beaucoup moins glamour que le Père Noël ou que le bébé Jésus tout mignon. Non, c'est le Christ Sauveur par sa grâce. Marie a l'humilité de le reconnaître qu'elle a besoin d'un Sauveur et c'est ce genre de profonde humilité qui la rend si utile pour Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie, non pas pour sa sainteté encore une fois, mais pour son humilité à reconnaître qu'elle aussi a besoin d'un Sauveur. Nous aurons l'occasion de rappeler cela en prenant tout à l'heure le repas du Seigneur, la Sainte Cène. Et puis il y a un troisième et dernier point. Elle est prête à prendre des risques, elle est prête à recevoir la grâce, et puis elle est prête à servir son Dieu. Cette phrase qui vient à la fin du passage, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, ou qu'il me soit fait selon ce que tu m'as dit. » Et ça pourrait signifier pour nous une belle phrase biblique, n'est-ce pas? Mais ce serait oublier que c'est une jeune fille qui la prononce, qui n'a rien demandé à personne, qui avait fait certainement ses plans pour sa vie, avec Joseph d'ailleurs. Et là, elle abandonne ses plans pour se soumettre à celui de Dieu, pour partir à l'aventure d'une grossesse improbable. Oui, improbable. Qui a déjà porté le Fils de Dieu? Est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce que Dieu s'est déjà incarné? Tout est nouveau. Et elle dit oui, je suis la servante du Seigneur. Et je pense à ce chant qui s'appliquerait bien pour Marie. C'est « Reçois ma vie comme une adoration ». Et elle dit, le chant dit, « J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes désirs, mes ambitions, car tu es Dieu, ma passion. » c'est vraiment pour cela qu'elle sera utile entre les mains du Seigneur, cette disponibilité, cette promptitude à abandonner ses plans de carrière ou de vie familiale pour adopter celui de Dieu, le plan de Dieu pour elle et pour l'humanité. Cette petite jeune fille d'une petite bourgade de Galilée a, semble-t-il, une vision plus large que son petit univers. Elle veut être la servante du Seigneur dans le big picture, dans la grande image que Dieu a, dans le plan qu'il a pour les hommes et les femmes de sa génération et pour toutes les générations qui suivent. Et pourtant, on sait que cette grossesse à Marie ne va pas lui apporter que du bien, que des joies, plutôt même des problèmes. Personne ne veut voir son fils rejeté par tout le gratin de la société. Aucune mère ne veut voir mourir son fils dans la trentaine, alors qu'il a toute la vie devant lui. Alors elle ne sait pas tout cela à l'époque, mais on peut imaginer qu'elle a dû pressentir que tout ne se ferait pas sans heurts ni sans souffrance. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je termine par un détail important. Par deux fois, l'évangéliste Luc, écrit que Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ses paroles et y repensait souvent. Et puis, la deuxième fois, sa mère, Marie, gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Et Madame Harrison, le pasteur Harrison, nous dit que Marie écoutait, retenait, apprenait, intériorisait les paroles qui lui avaient été adressées et les gardait précieusement jusqu'à ce qu'elles deviennent le récit fondateur de sa vie. Le récit fondateur de sa vie. Et si le récit de l'annonce faite à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste, et si le récit de l'annonce faite à Marie pour la naissance de Jésus le Sauveur, et si le récit de la naissance de Jésus, et si le récit de tout l'enseignement de Jésus, et si le récit de sa mort sur la croix, où il s'écrit « Tout est accompli, tout le salut est accompli », et si le récit de la résurrection de Jésus était le récit fondateur de notre vie. Est-ce que ne faudrait-il pas l'intérioriser pour que tous ces récits deviennent le récit fondateur de notre vie, pour que notre vie repose sur cette grâce qui nous a été faite et que nous voulons prendre avec humilité en reconnaissant notre besoin, un récit fondateur qui nous appelle aussi à une réponse concrète dans notre vie, une mise en marche, une mise en route, une mise en disponibilité pour Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen.